Bonjour, bienvenue dans Estivalitude. Alors vaille que vaille, dans les embruns, tel un zéphyr, une brise, un vent doux et tiède, et parfois un mistral, une tramontane, un vent d'est, Estivalitude poursuit sa route au long du littoral. Estivalitude, c'est la petite boutique éphémère qui ouvre chaque jour sur France Inter de 9h à 10h. Et avec ceci,
c'est ouvert à tout le monde.
Tout le monde.
Tout le monde.
Ouais, tout le monde y sera.
Formidable.
Laure Limongi, vous êtes romancière, auteure d'une dizaine de livres, et vous nous offrez en cette rentrée littéraire qui arrive déjà, On ne peut pas tenir la mer entre ses mains chez Grasset. Bonjour Laure Limongi.
Bonjour.
Bernie Bonvoisin, vous êtes écrivain, acteur, réalisateur, mais vous êtes surtout pour bien des gens, dont moi, une légende du rock'n'roll, car oui, vous êtes chanteur et vous redonnez vie cet automne à votre groupe mythique Trust, sous la forme d'un nouvel album, Fils de lutte. Bonjour Bernie Bonvoisin.
Bonjour.
Ce lundi, oui, c'est la vie elle-même qui devient rock'n'roll, ainsi qu'en témoignent Laure Limongi et Bernie Bonvoisin. Magnéto Juliette.
Estivalitude.
Ça veut dire quoi?
Ça veut rien dire.
Christophe Bourseiller sur France Inter.
Alors évidemment, on ne va pas parler de rock pendant toute l'émission, je vous rassure, au contraire, je vous déçois, je ne sais pas. En tout cas, Laure Limongi, je sais que vous connaissez bien le rock. Vous aimez Trust?
Ah bah bien sûr, enfin ouais, c'est, oui, ouais. Ça serait difficile de ne pas.
Ouais. C'est ça votre rock fétiche, c'est quoi vos musiques à vous?
Alors je suis très éclectique en musique, puisque je pense être constituée de 50% de musique et de 50% de livres. Mais j'aime beaucoup, je sais pas, des groupes comme Shellac, Oxbow, voilà.
Ah oui, vous êtes pointu.
Oui, enfin je sais pas, en tout cas j'aime la bonne musique.
Vous avez fait un livre sur Elvis Presley qui était un peu moins pointu quand même, qui est de fonction
c'est
Elvis.
C'est vrai, parce que je l'ai vraiment pris dans un sens, enfin d'icône warholienne, enfin de voilà, dans un tout autre sens que exclusivement musical bien sûr.
Bernie Bonvoisin, vous connaissiez le travail de Laure Limongi?
Honnêtement non.
Non, vous n'aviez pas lu.
J'ai découvert, ouais. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que elle est multicarte.
Ah, totalement.
Et ça, je trouve que c'est assez rare et donc intéressant.
Ouais, faut lire Anomalie des zones profondes du cerveau, soliste, indocile, la rumeur des espaces négatifs, Eros Peccadi, tout ça, faut que vous le lisiez maintenant.
Mais je vais me mettre là-dessus, ouais.
Alors, Bernie Bonvoisin, le dernier album de Trust qui s'appelait Dans le même sang, date de 2018. Vous avez remis le couvert assez vite, finalement.
Oui, parce que en fait, on a reformé le groupe en 2016, en décembre 2016, en se disant que voilà, on jouerait, je sais pas, 2-3 mois. Et en fait, on a démarré une tournée en décembre 2016 qu'on a terminée en décembre 2018.
Et pourtant, vous aviez tout arrêté en l'an 2000.
Ouais. Mais on a un système d'arrêter et de se reformer tous les 10 ans.
C'est pas mal votre système. Vous ne bougez pas musicalement. Vous êtes vraiment dans une logique
et donc
absolue.
On a fait 200 dates. Voilà, tout se passe super bien.
Ah bah j'imagine.
C'est un bonheur.
C'est un très bon album. Il s'appelle Fils de lutte. Ça vous résume, Fils de lutte?
Non, enfin, ça nous résume. Oui, ça résume quelque part. Oui, ce que sont les gens, enfin les entités du groupe, mais aussi tout un climat qu'il y a depuis le fait d'aller sur la route. On a joué vraiment dans des petites salles, dans des petites villes, hors des circuits habituels. Et donc, on a vraiment été dans ce qu'on appelle communément la France profonde, et vraiment des lieux où les gens, quand vous arrivez, sont très étonnés et vous demandent ce que vous faites là, quoi.
Alors, évidemment, la différence, parce que vous avez travaillé avec le producteur d'AC/DC, d'Aerosmith, le Canadien Mike Fraser. La différence avec le rock anglais-américain, c'est que on comprend les paroles avec vous. Et du coup, c'est vrai que c'est un rock, enfin, ça ne sauf les anglophones, évidemment, que je salue. Et du coup, c'est un rock très engagé que vous offrez. Il y a une chanson, par exemple, qui s'appelle Amer Saheb, qui est un hommage au commandant Massoud, l'Afghan. Pourquoi?
Oui, très souvent, j'ai pour habitude d'inverser la chose, parce que c'est très souvent on dit oui, vous êtes un groupe engagé ou un artiste engagé. Et très souvent, je dis mais ce qui serait intéressant, ce serait de demander à ceux qui ne s'engagent pas pourquoi ils ne le font pas. C'est une question qui est rarement posée quand même aux artistes. On le voit dans les. Il y a 3 semaines, on est allé faire un concert de soutien pour SOS Méditerranée qui vont récupérer les migrants en mer.
Ouais.
Et en fait, on s'est retrouvé avec Camila Jordana, qui est quand même une artiste mainstream, comme on dit, et qui prend quand même le risque d'aller faire ce genre de choses. Et ça, je trouve ça plutôt noble et courageux. Alors que voilà, d'autres évitent de.
Alors Laure, vous vous engagez, vous êtes une artiste engagée, vous vous considérez comme un écrivain engagé?
Bah, je suis exactement sur la même ligne. Enfin, je vois difficilement comment, surtout dans l'époque dans laquelle on est, et ce qu'on vit aujourd'hui, on ne pourrait pas. Enfin, ça serait très irresponsable et très grave de ne pas l'être, à mon sens.
Alors il y a quelqu'un qui en prend pour son grade dans votre disque, et là on va écouter tout de suite de la musique bien sûr, c'est Emmanuel Macron. Il y a un morceau qui s'appelle Miss Univers, c'est un peu une chanson satirique, Miss Univers.
Oui, c'est une chanson satirique, oui, absolument.
Écoutons quelques extraits de Miss Univers.
Emmanuel Macron est en décalage horaire, il se croyait en lice pour être élu Miss Univers. Ses armées sont en marche, le sens en est précaire, la République jupitérise ses pauvres aux portes des églises. Un monde nouveau, un monde tout beau, les classes moyennes veulent sous le veau. La République est exemplaire, le sort des pauvres est secondaire, le temps pour un temps sort de la cuisse de Jupiter.
Les inoffensifs apparents
ne restent pas pour très longtemps. Emmanuel Macron est en décalage.
Pourquoi une telle charge contre Emmanuel Macron ?
Non, c'est pas une charge. Il y a un. Je pense que, enfin, parfois, de mon point de vue, il y a des gens, franchement, on se demande ce qu'ils font là, quoi, à quoi ils servent et. C'est être autant avoir une telle fonction, être autant coupé des gens, de la réalité, de ce que vivent les gens, de ce que subissent les gens.
Pourtant, il n'arrête pas d'aller au contact.
Oui, non, bien sûr. Oui,
il a organisé le grand débat.
Ouais, il aime tomber sa veste, faire des pas de danse avec Donald Trump et ce genre de choses. Mais vous savez, c'est un peu. C'est important que ce soit un peu comme dans une relation amoureuse. C'est-à-dire, il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on fait.
On n'est pas ce que l'on dit, on est ce que l'on fait. Voilà, hein, c'est un adage qui dit ça.
Voilà, exactement. Donc, vraiment, il y a une. Je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a fait ces deux ans de concert, il y a une vraie souffrance, quoi. Il y a une vraie.
Vous avez dit dans Marianne, on est tombé dans la culture du néant, dans la néanticitude. Alors ça m'a plu à cause d'estivalitude. Dans les machines à rien. Ouais. On est dans la néanticitude, Laure Limongier?
Moi, je pense effectivement qu'on est dans une période de déliquescence et que ce qu'on vit aujourd'hui est une sorte d'épigone de fin de système. En tout cas, c'est clairement, ça ne marche pas. Il y a cette classe dominante qui voue une espèce de mépris total envers des gens effectivement qui souffrent.
Donc vous êtes d'accord, hein, politiquement, je vous trouve très proches tous les deux quand même.
Oui, je pense.
Alors je dois dire que ma chanson préférée dans votre disque, on a le droit d'avoir sa chanson, chanson, c'est personnellement « Ce n'est pas la Corée du Nord ». Alors je vous expliquerai pourquoi après, mais écoutez ce morceau.
Stationnaire, surtout pas une soumission. Nous sommes debout sur la même terre. Nous sommes tous la nation.
Je devrais inviter des rockers tous les matins parce que c'est vrai que c'est une musique qui, bizarrement, comme beaucoup de gens, me parle beaucoup. Donc c'était Ce n'est pas la Corée du Nord. Et là, je dois dire, parlons un peu musicologie, Bernie Bonvoisin. Je trouve que dans ce morceau, Trust hérite d'un groupe rock de la fin des années 70 que seuls les spécialistes connaissent, les Dictators.
Ouais.
Est-ce que vous êtes d'accord?
Johnny Manitoba.
Voilà, Manitoba, c'était un catcheur, new-yorkais, enfin ils étaient plutôt du côté de New York. Et je trouve, quand j'écoute cet album ou ce morceau, j'ai pensé au Dictator, je tiens à le dire. Ouais.
Et on a joué d'ailleurs au tout début de Trust, on avait un guitariste américain avec nous qui jouait dans les Dictators.
Ah bah voilà, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Alors vous dites, Bernie Bonvoisin, nos valeurs exemplaires sont devenues secondaires.
Oui, aujourd'hui on a affaire à une guerre de. Enfin, moi je pense que c'est pas une guerre de culture, c'est une guerre de valeurs. Et que à partir du moment où les valeurs qui sont les nôtres, on s'assied dessus, c'est tout à fait compréhensible que les gens à qui on veut les imposer ou en tout cas le les apporter comme ça à l'étranger, que ces gens ne respectent pas ça, puisque la seule chose qu'on est capable de leur montrer, c'est que justement, on ne respecte plus ces valeurs.
Alors, vous dites aussi, certains penseurs irréprochables, je vous ai extrait du
oui,
disque,
bien sûr, oui.
Certains penseurs irréprochables ne sont en fait que des dessous de table. Vous êtes d'accord, Laure, avec cette vision de tous ces penseurs qui sont devenus des dessous de table?
C'est ces espèces de prétextes qu'on prend pour leur faire dire l'inverse, j'imagine. Oui, effectivement, on est dans... Je pense qu'on est surtout dans un monde effectivement qui perd l'essentiel et qui se laisse complètement happer par tout ce qui est éléments de langage, communication. Enfin, on a vraiment l'impression d'être voilà, une sorte de monde de marionnettes. Et je pense que ce rapport à l'essentiel, il est très important de le retrouver. On est quand même dans un moment d'urgence écologique ouais. absolue. Enfin, je sais pas comment on n'est pas tous en train de se préoccuper de cette question. Et là, on en est encore à subir des gesticulations de gens qui sont en train d'essayer juste de préserver des richesses pour eux. C'est quand même extrêmement grave.
Alors voici le single extrait de votre album Fils de lutte, Bernie Bonvoisin. Ça s'appelle Les murs finiront par tomber. Tout un programme.
Ouais.
Une chanson optimiste, Trust, extrait du dernier album Les murs finiront par tomber. Bien sûr, ce n'est pas encore tout à fait le cas.
Estivalitude sur France Inter.
Laure Limongi, ce n'est peut-être pas un secret de dire aux auditeurs que vous êtes corse. Or, vous avez attendu votre dernier livre, On ne peut pas tenir la mer entre ses mains, pour oser, on pourrait dire oser, parler de la Corse. Pourquoi avoir tant attendu ?
En fait, c'est un territoire, je pense, qui est vraiment complexe à aborder, parce que à la fois c'est un territoire très passionnel quand on est né là-bas, et qui est aussi totalement environné de clichés, d'images,
à
travers lesquelles il faut savoir trouver son propre chemin. Après, il y avait une raison plus personnelle, qui est que pour ce livre-là, je suis allée vraiment chercher très loin, puisqu'il raconte une histoire, il raconte un secret de famille, une sorte de silence très très puissant. Et je pense que réellement que mon désir d'écriture est né de pouvoir parler contre ce silence. Si j'ai forgé ma langue, si j'ai réussi à survivre à ça, c'est parce que justement j'ai essayé de trouver la force de faire ça.
Le silence en Corse est plus intense que dans d'autres régions, parce que souvent moi les Corses que j'ai pu rencontrer me disent, vous savez, on parle tout le temps de l'omerta, on en a marre. En réalité, on parle, on balance sur tout le monde, et c'est vrai que c'est ce que j'ai pu constater lors de mes séjours en Corse.
On aime bien les putati, comme on dit chez nous, mais non, effectivement, enfin, je peux pas faire de généralité. Je ne suis pas née dans la Beauce ou je ne sais où, donc je peux pas vous dire si c'est pire dans la Beauce ou en Corse.
C'est sûr.
Mais voilà, là je parlais vraiment d'un. Disons que dans ce livre, il y a la conjonction entre une histoire corse, entre les années 70 et à peu près 2000, et une histoire personnelle, familiale, qui pour le coup, elle est vraiment marquée par un silence pesant. Donc c'est pas le cas de toutes les familles corses, évidemment, mais c'est le cas de celle qui est décrite.
Alors le personnage central de votre livre se nomme Huma. Huma, c'est ça, je prononce bien là ?
Oui, parfait.
Huma, donc c'est comme ça que ça se prononce, je crois, en langue corse, si je me trompe pas.
Ah, c'est pas du corse, c'est une invention personnelle.
Ah, c'est vous qui avez inventé ce prénom, c'est une invention de Laure Limongi, en fait. D'accord, ok. Elle est née en 1976, comme vous.
Oui.
Ce personnage de Huma, elle est corse, comme vous. Il y a une part autobiographique dans votre livre ?
Oui, alors je crois que c'est à peu près une des premières fois où je le dis, mais c'est clairement une part autobiographique. Après, l'idée c'était à la fois de, comme je l'ai expliqué, de m'emparer enfin de cette histoire qui pour moi est peut-être au cœur de mon désir d'écriture, et en même temps d'en faire littérature. Il y a évidemment beaucoup de transpositions, mais en tout cas ce cheminement est pas loin d'être proche du mien. Tout à fait.
Alors effectivement, vous voyez, Bernie, ce que raconte Laure dans son livre, c'est vraiment un secret qui va se dévoiler tout au long du livre. Et alors c'est vrai qu'elle raconte, donc il y a ce retour en Corse du personnage principal, et puis qu'après se rappelle de tout ce qu'elle a vécu. Et par exemple, quand on lui demande la profession de ses parents à l'école quand elle est petite fille, Huma, la petite ne sait pas quoi répondre. Alors pourquoi elle ne sait pas quoi répondre, Laure Limongi ? Profession des parents, je ne sais pas.
Parce qu'ils ne parlent pas. Donc elle est absolument incapable de... Elle ne sait pas du tout ce que fait son père et sa mère dans la vie, quoi. Elle les voit le matin et le soir, mais elle ne sait pas ce qu'ils font.
Elle ne sait pas ce qu'ils font. Non, ils font quoi ?
Bah justement, c'est la question. C'est que peut-être, on peut pas trop le dire, quoi. Voilà.
Parce qu'en même temps, je précise que les parents sont constamment armés. Alors, je vous cite, j'ai un extrait de votre livre. Elle a longtemps cru, donc c'est Huma, elle a longtemps cru que le holster en cuir odorant porté en bandoulière par sa mère, dissimulé sous des vestes élégantes, faisait partie de la panoplie d'une femme. D'accord. Avec le sac à main assorti et les talons qui claquent sur le bitume.
Bon,
c'est formidable.
Après, je remets dans le contexte, c'est-à-dire que c'est pas, justement, l'idée, c'est pas de faire une caricature de la Corse avec
Trumpienne. C'est ce qu'on croit voilà. Jusqu'à ce qu'on découvre.
Mais c'est pour ça que je dis que cette histoire d'armement est vraiment liée au secret de famille, à une histoire familiale complexe.
Et cette histoire familiale fait qu'on n'est pas loin de Phèdre, dans lequel Phèdre tombe amoureuse de son beau-fils Hippolyte.
Voilà, on peut dire ça.
On peut dire ça comme ça.
Oui.
Il faut préciser aussi que Huma est élevée par une grand-mère très réac, violemment antisémite.
Oui, qui est un peu folle et réac, tout à fait.
Ouais.
Raciste, enfin.
En fait, elle va triompher de la malédiction liée à la transgression familiale, on pourrait dire, le secret de famille, par l'exil. Alors, on a l'impression que se sauver en s'exilant, c'est un peu un destin corse. C'est le cas ?
Ben oui.
Il y a beaucoup de Corses en exil.
Il y a 320 000 habitants sur l'île et 2 millions dans la diaspora, quand même. Donc, clairement, surtout moi, ma génération... Pour faire des études, j'avais envie de partir aussi, de voir du pays. Et parfois, on reste à l'extérieur aussi pour des raisons professionnelles, tout simplement.
Bernie, vous connaissez la Corse ?
Oui, très bien. Ouais, enfin, très bien, assez bien.
Ouais, ouais. Vous avez des amis corses ? Vous êtes rentré dans la société corse ?
Oui, j'ai des gens très très proches qui vivent là-bas, qui vivent à Cargès.
Ah oui, magnifique lieu.
Et puis voilà, je faisais plusieurs fois. J'ai fait un film avec des Belges aussi là-bas, à Calvi, il y a 2 ans.
Ah bon ?
Ouais, ouais.
Ah oui, très bien.
Ouais,
comment vous jugez cette société corse, cet univers ?
C'est vrai qu'il y a... il y a une forme de culture du silence. Ça, je trouve que c'est très...
Il y a des choses qu'on ne dit pas.
Voilà, il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a des choses qu'on ne dit pas, qui ne se disent pas.
Mais que Lord Imonville dit, par contre.
Oui, non, mais c'est, il faut. Et puis il y a aussi, je trouve, cette particularité d'être illien, quoi.
Exactement, l'insularité. C'est la très
ce qui fait que tout le monde se connaît, qu'il y a une espèce de consanguinité, peut-être.
Oui, il y a alors après, en effet, je pense qu'il y a, comme vous le dites très justement, il y a beaucoup de clichés. Mais c'est vrai que la grande majorité des gens sont super. Et puis le lieu est, enfin voilà.
Alors Laure Limonger joue beaucoup avec les clichés, parce qu'au début du livre, on a l'impression qu'elle dresse une carte postale de la Corse. Elle nous parle des senteurs, du maquis, de la beauté du paysage. Puis très vite, on comprend que il se passe quelque chose de très très bizarre dans son histoire. Il y a une question que je voulais juste vous poser, Laure, parce que c'est un peu anecdotique, mais c'est dans votre livre. C'est que votre personnage travaille à un moment donné dans un donjon sadomaso. Comme vous.
Il y a des choses qui ont été transposées, d'autres pas. Je laisse un petit peu le flou sur certains détails.
Bon, alors j'ai pensé à vous, Laure Limonger. Voici une artiste corse, Clara Luciani. Ah, oh, bah oui, bien sûr, c'est de Bovary.
Je ne sais pas si je suis encore vivante, sinon quelle est cette douleur qui me hante. Mon corps se balance au-dessus d'une mer immense, mais je m'accroche à vous. Il ne me reste plus que quelques souvenirs d'enfance qui déjà deviennent flous.
Clara Luciani, Bovary, Madame Bovary, est-ce que c'est elle? Enfin, c'est une belle question, bien sûr. Elle sera en tout cas, sachez-le, en concert à l'Olympia à Paris les 10 et 11 septembre.
France Inter, Estivalitude, Christophe Bourseiller.
Mes invités ce matin sont Laure Limonger et Bernie Bonvoisin. Alors Bernie, je vous ai demandé si vous aviez une question pour Laure Limonger. Alors avez-vous une question à poser à Laure?
Oui, après avoir découvert toute cette multiplicité d'intérêts, savoir si quand vous travaillez dans un domaine, vous appuyez sur les autres et si ça a une incidence ou pas, ou si vous avez une moi, ce que j'appelle une étanchéité de bouchon. Quand vous passez d'un... Non, mais c'est
d'un... Une étanchéité de bouchon. Ouais, est-ce que vous l'avez
d'un projet à un autre, quoi.
Bah, je pense qu'au point de départ, il y a une passion pour l'écrit, l'art, la musique, voilà, que je diffracte de multiples manières. Quand j'écris, alors je suis éditrice, j'écris, j'enseigne, et quand j'enseigne à des étudiants la création littéraire, il est certain que je m'appuie sur l'expérience que j'ai en tant qu'écrivain et en tant qu'éditrice. Tout ça est à la fois, alors c'est bizarre parce que c'est à la fois assez poreux, mouvant, et en même temps de manière totalement tranquille. Enfin, on pourrait craindre que quand on écrit, on a une sorte de surmoi d'éditeur qui gêne, mmh. ou je sais pas, quand on enseigne. Et en fait, pas du tout. J'ai l'impression que les choses se mettent en place de manière naturelle, parce que je pense que le moteur, c'est vraiment une sorte d'énorme désir de transmission. Alors, l'écriture, c'est quelque chose d'assez solitaire. Alors, j'étais musicienne avant, et je pense que moi, j'ai toujours aimé travailler aussi avec, lancer des communautés d'écriture artistique. Ce qui fait que, voilà, transposer ça en écriture, en littérature, pour moi, c'était naturel, et c'est important aussi. Voilà.
Et vous, Bernie, bon voisin, vous pratiquez l'étanchéité de bouchon, parce que vous aussi, vous êtes écrivain, acteur, scénariste, réalisateur, et puis évidemment, chanteur de rock. Où est-ce que c'est l'étanchéité? Où est-ce qu'il y a un point commun, il y a un pivot, il y a quelque chose qui unit tout ce que vous faites?
Il y a une colonne vertébrale qui passe par les mots. Mais j'essaie d'avoir cette étanchéité, quoi.
Ah, vous recherchez cette étanchéité?
En fait, ça dépend. Moi, il arrive que je travaille sur deux choses à la fois. Et donc, là, il y a une vraie, nécessité. Mais en même temps, c'est quelque chose aussi qui se fait comme ça de soi-même. Mais pour rejoindre,
l'or,
c'est vrai par exemple, l'élément de la musique, c'est aussi quelque chose qui traverse les choses à chaque fois, quoi, parce qu'il y a un appui.
Alors justement, Laure, vous avez une question à poser à Bernie Bonvoisin. Alors qu'est-ce que c'est votre question?
Qui est assez proche d'ailleurs.
Ben, ça répond à ce qu'il dit, en fait,
oui,
ça prolonge.
Parce que vous êtes écrivain de livres et de chansons. Moi, c'est vrai que la chanson, ça m'aide. Enfin, c'est d'une complication pour moi. Je suis extrêmement admirative devant les gens qui écrivent des chansons, et surtout des bonnes chansons comme vous. Alors je me demandais, quelle est la différence? Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est un rythme différent? Comment ça se passe, l'écriture d'une chanson et d'un livre?
En fait, je dirais qu'il y a des pour la musique, il y a des codes. Vous êtes tenu à vous. Vous pouvez avoir un texte. Vous pouvez écrire le texte comme vous faites en littérature, c'est-à-dire d'être très libre et sans code. Sauf que à partir du moment où vous avez ce texte et que vous l'adaptez à la musique, vous devez l'adapter sur quelque chose de codé, quoi. C'est-à-dire que vous avez tant de strophes pour les couplets, pour les refrains, donc après vous êtes obligé d'arranger ça et de faire en sorte que ça tienne dedans. Il y a un cadre, en fait.
Ah, mais il y a aussi une concentration qui est tout un art de la concentration.
Oui, c'est un peu résumer une histoire en 3 minutes 30, quoi, hein, schématiquement. Alors qu'en littérature, c'est vaste,
c'est un peu différent.
Alors
Laure, votre personnage Yuma est né en 1976, dans une période quand même un peu particulière, puisque c'est la période qui voit éclore tout un mouvement nationaliste corse dont on a l'impression qu'aujourd'hui il a presque un peu triomphé, hein, enfin je ne sais pas si c'est le cas. Et vous racontez par exemple dans votre livre une scène tout à fait sidérante à Bastia, où vous êtes avec votre grand-mère, je crois, qui vous tient par la main, et il y a une terrible émeute, et l'émeute s'interrompt pour vous laisser passer. C'est quand même bien ça, non? Comme c'est pratique quand les émeutes s'interrompent pour laisser passer les femmes et les enfants. Et vous racontez aussi qu'au lycée, votre cours, vous êtes en cours, est interrompu par trois hommes cagoulés qui fuient la police. Et évidemment, quand la police arrive, personne dans la classe n'a vu passer les trois hommes cagoulés. Alors là, tout ça, ça nous renvoie à l'imagerie du FLNC, le Front de Libération Nationale Corse. Ça représentait quoi, le FLNC, pour l'adolescente que vous étiez?
Bah justement, j'avais à cœur aussi de décrire cette génération, parce que j'avais compris il y a pas très longtemps, en en parlant justement avec des gens de la même, des Corses de la même génération que moi, que on a vraiment vécu quelque chose de très particulier. C'est-à-dire, naître à cette époque, en tout cas, voilà, tel que moi je l'ai vécu, c'était vraiment Voilà, c'était tous les contes de méchants et de gentils.
Les méchants français, les gentils corses.
Oui, mais quand on est petit, le monde il est assez binaire, donc forcément on est du côté des gens qui sont cagoulés. Et puis quelque part, on sent que quand ça éclot, enfin à l'air, il y a le FLNC, c'était vraiment pour des raisons légitimes. C'était vraiment pour défendre, ouais. Se défendre
une
contre
l'identité corse.
Mais au-delà de ça, c'était vraiment, il y avait une politique, je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est vrai, coloniale de l'État français, qui était absolument insupportable, et des gens qui étaient en train d'en mourir. Enfin, c'était extrêmement grave. Il était essentiel de reprendre pied sur les choses pour ne pas laisser mourir cette culture. C'était une responsabilité. Et donc, quand on était gamin, alors certes, c'était violent, mais je sais pas, on était pris dans cette
Vous dites, on dansait
étape.
À chaque nuit bleue. Chaque fois qu'il y avait une nuit bleue, on dansait de joie.
Moi, mon père me retenait parce que je voulais sortir dans la rue puis aller faire la fête. Enfin, c'était terrible. Après, évidemment, et ça, il est important de le dire, ça a été totalement différent dans les années 90.
Ouais.
On n'était plus enfants, on était ados. Et là, c'était des mœurs. Enfin, on comprenait absolument pas ce qui se passait. Tout a changé. Le mouvement a totalement changé.
Il y a eu des
changé.
Guerres fratricides aussi entre les différentes
factions. Totalement noyauté par d'autres mouvements, et là pour nous ça a été terrible. Ça a été vraiment un moment de violence, de tristesse. On comprenait plus rien. On avait l'impression d'être adolescent dans un monde qui était en train de mourir, et il y avait vraiment pas. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de gens sont aussi partis à ce moment, à 18 ans. On n'avait qu'une seule envie, c'était d'aller voir s'il y avait de la vie ailleurs. Et c'est pour ça que voilà, le fait que maintenant ça soit différent, c'est un soulagement pour tout le monde.
Alors la Corse aujourd'hui a conquis une large autonomie. Les nationalistes sont majoritaires au fond. Alors j'aimerais bien qu'on écoute, Laure, si vous êtes d'accord, et puis Bernie aussi, un extrait d'un émouvant discours d'Edmond Simeoni lors d'une des victoires des nationalistes aux élections territoriales. C'était en 2015. Mais alors, attention, le problème, c'est en langue corse. Donc Laure Limongi, vous nous aiderez peut-être à nous restituerait le sens de ce discours.
E però il popolo ugurace a forza di vera di giustizia era un diritto, un nemico un fatto di quelli che comandano. Ma quanto li hanno straziato, quanto li hanno maltrattato, quanto li hanno trattato per l'odio. Non abbiamo mai tenuto conto di questo. Abbiamo avanzato, eravamo con l'agricoltore, eravamo con gli studenti, eravamo per la lingua corsa, eravamo per l'università, ma la questione che pongo.
Alors qu'est-ce qu'il dit, Laure, en deux mots?
Alors déjà, c'est très émouvant de l'entendre, hein, puisqu'il est disparu il y a quelques mois. Alors c'est un discours très intéressant qu'il fait effectivement en 2015. Là, dans le passage, il parle de la justice qui est un droit. Et du fait que voilà, en Corse, les gens étaient maltraités et que eux ont toujours été du côté des agriculteurs, des étudiants. Dans le discours, un peu rapidement, l'intégralité du discours, en fait, il revient sur toute la geste nationaliste. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il part de l'Argentel, c'est-à-dire de 1960 et du premier mouvement écologique. Donc vraiment, il se base sur ce mouvement-là pour tracer la geste en fait du nationalisme qui a été, comme je l'ai dit, semé d'embûches et assez complexe. Et pour dire aussi que cette victoire-là, c'est un début, mais que tout est à faire, tout est à construire dans la paix, dans l'unité et dans le travail.
Mais alors, il faut dire aussi que Edmond Simeoni, c'était un peu un modéré. Hein, il faut expliquer aussi aux auditeurs qui ne connaissent pas, c'était pas le plus ultra. Au contraire, c'était quelqu'un qui avait plutôt une fonction de modérateur, quelqu'un qui calmait les ardeurs, enfin, qui était plutôt une figure de sage en Corse. Hein.
Tout à fait.
Qu'est-ce que vous pensez du nationalisme corse, Bernie? Le FLNC, ça vous parle ou
oui,
ça vous est étranger?
Moi, je comprends ces revendications. Et c'est aussi un endroit quand vous y allez. Il y a plein de choses que vous pouvez comprendre. En effet, toute cette protection du littoral, tout ce, je veux dire, il y a cette ce refus qui est ce qu'on trouve aujourd'hui beaucoup sur les côtes. Généralement proche des mers, c'est-à-dire où il y a une surproduction d'hôtels et de lieux pour les touristes. C'est vrai que la Corse, voilà quoi. Alors en effet, il y a des gens qui bougent par rapport à ça, mais en même temps, c'est compréhensible parce que c'est aussi, je pense, moi j'y suis allé il y a quelques années avec une amie qui avait beaucoup voyagé. Et franchement, elle, c'est la première fois qu'elle venait, et sa première action, ça a été de me dire, mais je ne comprends pas pourquoi les gens font 15 000 kilomètres pour aller au bout du monde, dans les îles paradisiaques, alors qu'à une heure de Paris, il y a cet endroit, quoi.
Comme du feu, On the street and tapping at the heat. Jeans, pants and Crocs, no socks lip on me feet. Nap sock with me a beat. Well, pack up on the need. Stay woke, no sleep. Me no little go keep. Money for me mind, but me never have a kind. Cause me does a hustle for the pretty dollar sign. I never no fun time, life rough sometime. But me know me and me mommy happy see the sunshine. That's why me
come with the fire, the city burning. Don't me just a turn it up fire and keep it burning. I burn like a tire, me have a burning sun. And if my try for retire, me leave them yearning. None can hold my flame. No, he can't quench, can't cool, can't tame. Since the devil no like it himself, he turn it down. So me just give him the fire, I make it burning.
Sita, what become a Peter? Mommy say be doctor, granny say be preacher. Muffy be a rasta, daddy say be neater. Peter never like that, so him take the streets up. Everybody born with the talent to fit feature. Blessings in abundance, so we fit cherish each other. Never be ungrateful, life is such a teacher. Coffee pan upset a track, see me bring the heat, yeah.
Come with the fire, the city burning. Don't me just a turn it up fire and keep it burning. It's a burn like a tire, me have a burning sun. And if my try for retire, me leave them yearning. None can hold my flame. No, he can't quench, can't cool, can't tame. Since the devil no like it himself, he turn it down. So me just give him the fire, I make it burning.
Run up and down, have them a run up and down. Yeah, coffee with the dance sound. Anytime he come round, a madness panic compound. Man a ton, fool a ton, clown. But Jah Jah cover my journey, I beg you guide it. And any trouble me see, help me avoid it. Me no say anything me need, God will provide it. Anyway, still what a time, lead me beside it.
Come with the fire, the city burning. Don't me just a turn it up fire and keep it burning. It's a burn like a tire, me have a burning sun. And if me try for retire, me leave them yearning. None can hold my flame. No, it can't quench, can't cool, can't tame.
Alors elle se nomme Kofi, comme le café. Vous en voulez encore d'ailleurs, Laure Limonger et Bernie Bonvoisin, non, ça va ?
Ça va.
Ça va, c'est parfait. Elle est jamaïcaine, c'était Burning, donc une programmation speakeasy, Burning Man, fruits pressés de Thierry Dupin.
Vous avez dit ?
Vous avez dit ?
Ah non, vous avez dit ! De quoi ? Qu'est-ce que vous avez dit ?
Pourquoi vous ne me l'avez pas dit plus tôt ?
Les choses ne sont jamais manichéennes, mais enfin, on s'aperçoit que, voilà, il y a une partie du monde qui est là pour enfiler l'autre, quoi. La donne, elle est comme ça, quoi.
Mais quand même, les choses ne sont jamais manichéennes, Bernie Bonvoisin.
Non.
Hein ? Qu'est-ce qui vous révolte le plus aujourd'hui, même là, en août 2019 ?
Le manque d'égalité, sans égalité, la liberté est incomplète.
Et vous, Laure, qu'est-ce qui vous énerve en août 2019?
Je suis évidemment d'accord avec ce principe général, mais voir des gens se noyer en Méditerranée, je peux pas. En fait, je peux juste pas le supporter, ni physiquement, ni intellectuellement, ni émotionnellement.
Ouais, c'est honteux. C'est simplement honteux.
Vous avez dit, Bernie, l'extrême droite disait qu'on portait le drapeau rouge et l'extrême gauche disait qu'on portait le drapeau noir. En fait, on est plutôt du côté de ceux qui en chient.
Oui, c'est ça.
C'est ça, vous. Hein.
Oui, je pense que c'est l'humain qui est essentiel là-dedans, toujours.
Et vous avez dit encore, l'hypocrisie des puissants est le crime le plus antisocial. Vous êtes d'accord, Laure ?
Oui, on vient d'entendre Edmond Simeone, la justice a un diritto.
Ah bon ?
La justice est un droit.
Ah, j'ai compris, la justice a un diritto.
J'ai un accent un peu français, moi, c'est pour ça.
Ah, c'est pour ça que vous avez compris, alors. Alors, je précise que, sachez-le, Laure, vous faites plein de choses, vous êtes éditrice, vous donnez des cours, mais vous savez que Bernie, il n'est pas seulement donc un chanteur, il est aussi écrivain, cinéaste, et on se souvient du film qui vous a lancé, Les démons de Jésus, en 1997, j'aimerais bien qu'on en entende un petit extrait.
Ok.
Et vous, avec un prénom comme ça, vous faites quoi ? Des miracles ?
Elle est rigolote, ta copine, hein ? Non, moi j'essaie de vivre, mettre du blé de côté. Puis après, j'irai cracher à Paname, tu prendre un appart.
Pour une boniche. Putain, avant que ça arrive, il tombera des billets de 10.
Pourquoi tu dis ça? Je t'en vais avec moi, tu le sais bien. Hein.
Non, ça va, merci. J'ai besoin d'air. T'es comme les autres. Te faire rêver chez les femmes, c'est de les empêcher de respirer.
Qu'est-ce que tu racontes? Elle a plus d'espoir, la frangine. Moi, je veux bouffer la vie, moi. La piner avant qu'elle me pine.
Bah, vous avez une drôle de façon de l'aborder, la vie.
Ouais, enfin, je veux dire, je veux réussir, quoi.
Ah ouais? Réussir dans quoi?
Je touche un peu à tout, quoi. Je suis bricoleur.
Ça vous rend nostalgique d'écouter l'un extrait des Démons de Jésus, 1997?
Non, c'est, y a pas de, mais c'est, non, c'est un bonheur, c'est un moment de grâce. La vie, parfois, vous rend les choses.
Y a d'autres projets de films à venir?
Oui, j'ai un projet là, qui est, mais vous savez, c'est long. Moi, j'ai une écriture qui est décalée. Et donc, c'est, voilà, les choses prennent beaucoup de temps, parce que j'aime justement avoir cette liberté de faire les choses.
Je crois que vous avez réalisé des reportages et des documentaires.
Ouais, hein, je suis allé à la frontière syrienne.
Voilà, c'est ça. Vous avez fait Syrie des enfants de la guerre.
Ouais, ouais. Hein non, voilà. Mais c'est pareil. J'y suis allé. J'avais une carte blanche totale de la part de France 2 et d'LCP. Et voilà. Je pense que c'est essentiel de faire les choses. En tout cas, ces choses-là, surtout celles-ci, sans filtre, parce que ça, c'est des choses qui changent votre vie, quoi.
J'ai demandé à nos deux invités le son qui les résume. C'est toujours terrible. Qu'est-ce qui me résume? C'est une question grave. Hein. Oui. Alors, ouais. Laure Limongi, le son qui vous résume, alors il est encore en langue corse ce matin. C'est la Corse, c'est à l'honneur ce matin. Alors, on va écouter. Mais d'abord, j'aimerais que vous m'expliquiez de quoi il retourne, parce que c'est un petit peu codé quand même.
Oui, alors quand vous avez posé la question, en plus, il fallait que ça soit pas musical. Alors, pour moi, c'était très compliqué d'un son qui n'est pas musical. Ouais. J'étais en train de travailler à une Streg et Night, une nuit sorcière pour la Corse, pour un lieu qui s'appelle Providence, oui. Qui est un lieu agriculturel à la fois avec des magnifiques tomates bio, mais aussi des événements artistiques. et donc voilà, on parlait de sorcellerie, d'écoféminisme et du rapport de l'identité corse au patriarcat. Donc j'étais en train de retravailler sur le mouvement des sorcières en Corse et des signadores. Et donc là, c'est un extrait, effectivement, on entend des signadores.
Mais les signadores et les sorcières en Corse, c'est des vraies sorcières qui
font
des filtres?
Alors, c'est particulier, c'est vraiment des femmes qui enlèvent le mauvais œil.
Elles sont là, utile.
Voilà, dans les îles, assez en général et en Corse en particulier, il y a cette espèce de pas de légende, mais enfin de croyance, de l'envie,
superstition,
l'invidia, l'envie qu'on s'envoie les uns les autres, parfois même sans le vouloir, et qui fait qu'on est malade du mauvais œil. Et donc les signadores enlèvent le mauvais œil. Et ce qui m'a intéressé dans ce passage, c'est qu'à la fois, bon, on est plongé dans une langue corse qu'on n'entend quasiment plus, puisqu'évidemment la langue de la télévision et des médias, c'est comme le français et toutes les autres langues, hein, ça a tendance à aplanir les accents et les diversités linguistiques. Et c'est aussi qu'elles ont une vision du monde qui est complètement parallèle à la vision que nous on peut avoir.
Giura se tu intatti animali cattivi, feroci, roba che faceva paura. Niente affatto, lo tenia stretta per ciuffi, giura. Quando era giurato, fa 7 volte dove intatta sua donna come prima e faccio che il figliolo non ha più perso.
On n'a pas besoin d'avoir la traduction, mais en tout cas, c'est vrai que c'est assez émouvant d'entendre ces voix.
C'est une scène de ouais. En fait, c'est une femme qui se fait en quelque sorte désenvoûter par quelqu'un.
Oui, c'est ça, ouais.
Donc, où il sort le démon et à la fin
de l'extrait. Merci de désenvoûter, Estivalitude.
Et à la fin de l'extrait, en tout cas, ce qui est drôle, c'est qu'elle dit, ah, mais je l'ai connue, elle était donc, on en revient à la fois entre la réalité et la magie.
Alors vous, Bernie Bonvoisin, le son qui vous résume, c'est là. Alors là, je dois dire rien à voir, mais c'est un son très intéressant. On peut dire ce que c'est Dominique de Villepin à l'ONU,
ouais.
En février 2003. Ouais.
Il y a une alternative à la guerre. Désarmer l'Irak par les inspections. De plus, un recours prématuré à l'option militaire serait lourd de conséquences. Et c'est un vieux pays. La France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie, un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs.
Alors là, écoutez, vous m'avez scotché, Bernie Bonvoisin. Pourquoi ce choix de Dominique de Villepin, venant de la part de l'anard que vous êtes?
Ah ouais, mais je suis assez admiratif du courage politique.
Ouais.
C'est une chose absolument rare aujourd'hui. Et je suis pas du genre à bonder au drapeau ou ce genre de choses. Mais quand je vois que mon pays ne prend pas la file de l'Irak avec le reste du monde et l'explique de cette manière, je trouve ça...
Vous avez trouvé ça fort?
Ah ouais, je trouve ça bien. Ouais.
C'est qui le Dominique de Villepin d'aujourd'hui pour vous?
Waouh. Il y a non, il y a il y, y a plus de on a plus il y a plus de
il y a pas d'homme politique que vous admirez?
Non,
j'ai compris que vous n'admiriez pas Emmanuel Macron.
Non non, mais il y a je veux dire il y a pas il y a un manque il y a plus de vision, y a, enfin tout est à court terme et cette notion de enfin voilà quoi, les alliances se font, se défont et les infréquentables deviennent des gens très fréquentables et donc c'est plus on perd tout ça, on perd tout ça.
Tu veux que je te raconte un souvenir?
Un souvenir, oh oui.
Si vous saviez ce qui m'est arrivé, j'en ai des choses à vous raconter.
Alors c'est le moment fort de l'émission, vous vous doutez bien. D'abord, on n'est pas loin de la fin, il est déjà 9h55. Mais la question évidemment, c'est quel est votre plus incroyable souvenir de vacances? Parce que nous sommes quand même en pleine estivalitude, en pleine vacances. Alors Laure Limongier, vous dites, le grand souvenir, c'est l'été de mes 19 ans à Bastia.
Oui, en fait, si j'avais réfléchi à la question un peu plus tard, j'aurais peut-être parler de cet été-là qu'on est en train de vivre.
Mais, ah bon, l'été 2019, vous
ouais,
voulez dire.
Mais ah en bon fait, je parlais de, voilà, un souvenir un peu plus ancien, mais qui est intéressant parce que, donc voilà, j'avais 19 ans, j'étais en Corse, évidemment, pour passer les vacances. Et j'avais décidé de lire La Recherche.
Du temps perdu.
Du temps perdu.
Ah oui, en entier,
de
quoi.
Proust.
C'est gros.
Mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, j'avais, ma première expérience de Proust avait été assez déceptive. Moi, j'étais en plein nouveau roman, expérimentation littéraire. Enfin, je trouvais ça un peu vieillot, et donc j'étais partie avec l'idée un peu de démonter la chose, enfin de... Et en fait, j'ai été mais totalement prise par le livre, et c'est une des premières expériences, comment dire, du fait que quand on découvre une œuvre littéraire, il faut vraiment savoir se laisser emporter par ça, par le rythme qui est imposé par la phrase, par ce qu'a voulu créer en termes de pensée, en termes de forme, l'écrivain. Et donc j'ai ce souvenir d'un été assez classique en Corse.
Un été classique, elle est passée à lire Proust, tout Proust.
Bah, non mais quand même, je dors pas beaucoup, donc je lisais Proust, j'allais à la plage, je sortais avec mes amis. Enfin, je veux dire, c'était quand même un été classique.
Il y a beaucoup de livres à lire, La Recherche du Temps Perdu, quand même assez lourd. Hein.
Mais c'est vraiment cette expérience d'une sorte d'épopée intime où je suis passée d'une vision de Proust qui était très caricaturale et injuste, à être entrée dans un univers qui m'a beaucoup enrichie en tant que lectrice et en tant qu'être humain.
Alors, Laure Limongier a lu Proust à Bastia. Et vous, Bernie Bonvoisin, vous, c'est l'été 69, c'est ça?
Ouais.
Qu'est-ce qui s'est passé
pour
vous?
L'après 68.
Ah oui?
Voilà, cette espèce de...
Comment vous l'avez vécu, vous, cet été 69?
Moi, j'ai grandi en face de la fac de Nanterre. Donc on était vraiment dans les choses.
Ah oui, oui, oui.
Et cette sensation de tout est possible.
Vous alliez à Nanterre voir les étudiants.
Il y avait une ligne de chemin de fer entre entre mon immeuble.
Ah oui. Non, mais j'ai été étudiant à Nanterre,
entre
vous savez.
Cité, ouais.
Ah oui.
Bon. Et ben donc voilà, il y avait une voie ferrée entre ma cité et
Et vous franchissiez la voie ferrée pour aller voir tous les militants on imagine en 69 que ça devait être très politisé.
J'avais 13 ans, un truc comme ça, mais
et vous étiez de quelle tendance?
Tendance jeter des trucs.
Jeter des trucs. Ouais. Tendance jeter des trucs.
Jeter
écoutez,
trucs,
elle est intéressante, la tendance jeter des trucs.
Voilà.
Et ben écoutez, je vous remercie beaucoup pour ce bel été 69. Merci beaucoup Laure Limongier et Bernie Bonvoisin, vous avez tous deux fait preuve d'une remarquable estivalitude. Laure Limongier, votre roman On ne peut pas tenir la mer entre ses mains sortira le 28 août chez Grasset, et Bernie Bonvoisin, le nouveau disque de Trust, Fils de lutte, il sort un peu plus tard, il sortira le 27 septembre, voilà. Le jour de mon anniversaire, c'est gentil, merci.
Génial, merci.
Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter, c'est bien sûr On est sauvé, Juliette Medeviel qui réalise Estivalitude, l'émission ayant été préparée par Astrid Landon, Saad Merzak et Pierre Goulencourt, avec à la technique aujourd'hui Clément Vuillet. Notre boutique éphémère réouvre demain à 9h sur France Inter. Je recevrai le cinéaste Guillaume Niclou et le romancier Bruno de Cessol. Ah, Eh ben, je crois que Laurent Delmas a interrompu son Tour de France des rêves parties interdites. Alors Laurent, pas trop étourdi?
Non, je vous ferai un compte rendu, mais un peu plus tard. Mais vous verrez, il y a des endroits que vous ne connaissez pas encore et qui vous surprendront.
Croyez-moi. Sans doute pas une
seconde. Bon, pour l'instant, aujourd'hui, je reçois dans Ciné qui chante Anaïs de Moustier, la formidable actrice que vous découvrirez dans un nouveau film de Nicolas Parizer.
Ah bon?
En octobre prochain, Alice et le maire avec Fabrice Luchini. Pour l'heure, elle nous fera écouter Emmanuel Béart, Aznavour, Ryan Gosling, Barbara, Jeannette, Michel Blanc et Jeanne Moreau, entre autres.
Oh, vous venez chanter avec nous? Bah, je vais venir chanter, mais vous êtes
génial.
Brillantissime comme d'habitude.
Merci.
Et les rêves parties vous ont pas trop fatigué?
La preuve que non.
Ça fait plaisir.